présente le conférencier de ce soir, Philippe Gorwood, qui est né en 1961. Il est professeur de psychiatrie de la faculté Paris 7 à l'hôpital Louis Mourier. Il est directeur de l'unité INSERM 675, analyse phénotypique, développemental et génétique des comportements addictifs. Pour son parcours de 1982 à 1988, études de médecine et spécialisation en psychiatrie. Depuis 2004, il est professeur de psychiatrie. Pour ses spécialités, il a travaillé sur la vulnérabilité génétique des comportements. Et pour ses publications, entre autres, il est rédacteur en chef de la revue European Psychiatry. Je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec le public. Merci.
Merci beaucoup pour cette introduction. Je pense que si jamais vous aviez quelques doutes sur le fait que la génétique des comportements soulève notre passion, je pense que maintenant les choses sont à peu près claires. C'est quelque chose que je cherche assez bien. En psychiatrie, on a l'habitude d'une expression un peu bruyante des émotions, mais je l'écoute à deux niveaux, et à la fois sur le côté, un peu sous les feux des projecteurs, très pratiquement et de manière un peu plus agressive, verbalement, mais je l'entends aussi comme étant des préoccupations totalement compréhensibles. C'est-à-dire que ça peut paraître étonnant, mais on peut travailler sur la génétique des comportements et être extrêmement précautionneux sur ce que ça peut engendrer. La seule chose qu'on puisse commencer par dire comme introduction, en tout cas c'est ce que je vous proposerais, c'est qu'effectivement ça peut faire des horreurs. Néanmoins, ne pas le faire est peut-être encore pire. C'est-à-dire que la connaissance, la compréhension, ça peut être une des manières de repérer qui a besoin de plus d'aide, de centrer sur cette aide sur un mécanisme d'une manière qui a plus de chances d'être efficace et d'aider les sujets en difficulté, ce qui est un peu la base du métier médical. Ça peut aussi faire bien autre chose, mais au moins avoir cette information me paraît indispensable, sinon c'est l'obscurantisme dont on sait quelle est la base de mots-là à peu près certains. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est de revoir ensemble quelques-unes de ces études sur la génétique des comportements pour repérer que finalement, en dehors de dire c'est 14%, 25%, 78%, ce qui explique le trait, ça nous permet aussi d'évaluer de manière beaucoup plus approfondie tout ce qui est en jeu dans un comportement, une modalité d'être, une manière de fonctionner, et donc de percevoir un peu plus ce qui est en jeu dans la manière dont nous nous comportons dans la vie quotidienne. Alors, l'historique a commencé un peu comme ce soir dans la passion, avec une idée assez défensive où l'homme est maître de sa destinée. Ses comportements s'expliquent parce que Dieu le veut, ou ses comportements s'expliquent parce que je le veux, ou mes comportements s'expliquent parce que mes gènes s'expriment. Et finalement, on a des vagues qui durent entre 10 et 15 ans sociales, dont on repère encore très largement, par exemple dans les années 60, le retour du vécu individuel, celui qui est singulier de sa personne dans une société, bien éloigné de ce qui est un peu de la mécanique, c'est-à-dire le fonctionnement cellulaire autour du fonctionnement génétique. Et c'est intéressant puisqu'on voit bien que finalement, on est dans une optique très régulière par vague, où cette dimension génétique, ce n'est pas qu'elle est plus ou moins importante d'une période à l'autre, c'est qu'on y attire un regard différent, et peut-être parce que ce regard, de choses relativement fixes, l'ADN ne bouge pas pendant toute notre vie, eh bien va avoir un renvoi à des inquiétudes sur la liberté de ce que nous faisons. Et mon motivation ce soir, c'est d'essayer de vous montrer qu'on peut comprendre par la génétique un peu mieux les comportements, et que ce n'est pas parce qu'on trouve que les facteurs génétiques sont très importants dans ces comportements, que ces comportements ne peuvent pas bouger, et je vais vous donner de nombreux exemples pour percevoir comment justement cette vulnérabilité génétique s'articule avec tous les autres facteurs de risque qu'il n'est en rien question de dénier. C'est vrai aussi qu'il faut commencer par préciser que l'histoire de la psychiatrie génétique commence de manière insupportable. Elle a été quasiment créée par Ernst Rudin, qui est un Suisse allemand extrêmement brillant, qui a eu une carrière très importante au niveau universitaire et qui était considéré comme une sommité, le premier probablement ayant commencé à conceptualiser la génétique des comportements. C'est le même personnage qui finalement a commencé par expliquer que s'il y avait des gènes de maladie, il suffisait de supprimer les malades porteurs des gènes et les gènes de maladies disparaissent dans la population générale. Vous voyez très directement où je veux en venir. C'est l'inventeur de l'eugénisme qui se trouve être juste 4 ans avant l'arrivée d'Hitler au gouvernement et qui a été utilisé comme étant la première vague d'eugénisme. Alors vous imaginez bien qu'avec une histoire comme ça, on comprend aussi que des inquiétudes un peu bruyantes mais en même temps bien compréhensibles puissent s'exprimer en début de présentation. Finalement, dans la passion, il est toujours important de retourner sur ses fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est la science. Oui ou non, l'approche génétique est un moyen pertinent. C'est à peu près la seule chose à faire pour essayer de mieux comprendre ce qui est en jeu et par la suite de voir vers quoi ça va nous amener afin de savoir s'il peut y avoir un moyen d'aider plus spécifiquement et plus efficacement des sujets en difficulté. Et ça se conceptualise assez facilement où on essaie de faire le calcul du poids de tout ce qui est expliqué par les facteurs génétiques. C'est ce qu'on appelle l'héritabilité. Et dès qu'elle est spécifiquement supérieure à zéro, alors elle peut commencer à être utilisée comme moyen de compréhension du trouble, et non pas juste de dire si c'est ou pas génétique. Voilà un premier exemple qui vous envoie très directement sur ce niveau de complexité. Vous pouvez être un eugénique suisse-allemand des années 14, et penser à gauche que vous avez des parents biologiques qui sont agressifs, et bien vous allez avoir des enfants biologique agressif, même si vous avez la particularité de ne pas avoir élevé vos enfants, mais de n'avoir que transmis leurs gènes. Ça, ce sont les études d'adoption. Ces enfants sont abandonnés très tôt à la naissance, ont reçu bien sûr l'ADN de leur père et de leur mère, et quasiment pas d'environnement familial. Et puis, vous pouvez être un jeune révolutionnaire des années 60, où votre liberté vous appartient, et en vous disant, mais c'est l'univers qui me crée dans un existentialisme revendiqué. Et dans ces cas, vous vous intéressez alors aux parents adoptifs. Mes parents adoptifs, dans quel univers ils me font grandir, et en quoi cela peut expliquer le fait que je sois agressif ou pas. Et vous voyez dans les nombres qui suivent ces flèches, qui sont des facteurs de risque, des risques relatifs, qui sont à chaque fois supérieurs à 1. Donc tout le monde y trouve son compte. Il y a de la place pour les facteurs génétiques, indirectement évalués ici, hein, c'est bien sûr non rigoureux, puisque ne serait-ce que la grossesse est néanmoins sur les parents biologiques non adoptifs. Et il y a aussi un facteur éducatif, puisque les parents, lorsqu'ils ne donnent que l'éducation et qu'ils ont une agressivité, on retrouve plus d'agressivité sur ces enfants adoptés. Donc on a bien une double lecture qui en rien n'est incompatible et qui, comme par hasard, représente probablement bien mieux la réalité de cela. Un autre exemple qui a suscité énormément de passion, c'est l'intelligence. En sachant que l'on la base ici sur le quotient intellectuel, qui est un très mauvais instrument, mais qui est probablement le pire à l'exclusion de tous les autres, c'est-à-dire quelque chose qui soit normé, centré, reproductible et répété. Et donc, c'est avec ça qu'on a un indice indirect du fonctionnement cognitif des individus. Ici, on va non seulement pouvoir regarder les facteurs adoptifs et les facteurs génétiques, mais on va même pouvoir les croiser, puisqu'on a en fait les deux à chaque fois. Le QI des parents éducatifs, le QI des parents biologiques. Alors là aussi, si vous êtes dans la génétique, vous aurez tendance à vous dire, tiens, c'est intéressant, quand on regarde le total à droite, il n'est pas pareil, 109, dans la ligne du haut, que dans la ligne du bas, qui est à 121. Et donc, ça correspond bien au milieu biologique, c'est-à-dire les parents biologiques. C'est un peu une réalité observable tous les jours. Quand on est élevé avec des parents qui ont un niveau éducatif plus élevé, statistiquement, même si ce n'est pas explicatif, c'est une association, les enfants ont un QI plus élevé. C'est une différence relativement modeste, hein, on est entre 109 et 120. C'est néanmoins significatif. Si vous êtes plutôt dans les environnementalistes, vous aurez tendance à vous intéresser aux deux colonnes. Les parents éducatifs qui vont solliciter, stimuler les enfants, les exposer à des apprentissages, à éveiller leur culture, leur intérêt, va essayer d'organiser ce qui va être au mieux comme stimulation sensorielle pour avoir un bon éveil, eh bien, peut avoir un impact sur le QI de l'enfant. Et c'est le cas, puisque ces parents qui ont un milieu éducatif avec un QI un petit peu plus élevé vont avoir des enfants avec des QI un petit peu plus élevés. Et donc, on voit bien qu'à chaque fois, les deux facteurs sont en jeu, et ce n'est pas parce que l'un est présent que l'autre ne l'est pas. on aurait tendance à dire aussi que dans ces cas-là, on est peut-être tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Parce que quand on a un milieu avec un QI élevé et des parents indicatifs avec un QI élevé, on est plutôt dans le bon quart. Ceci dit, si vous avez vu, avec un point de différence, c'est clairement pas ça qui fait la différence dans la vie. Des choses peut-être encore peut-être plus loin de psychiatrie et plus proche de sentiments quotidiens, qui est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'amour qu'on a pour soi, c'est-à-dire pour certains simplement se tolérer, ou pour d'autres avoir une inflation narcissique un peu pathologique. En tout cas, cette sensation d'être en accord avec soi et d'être dans une espèce d'égalité d'humeur et de bien-être, eh bien, il varie d'un individu à l'autre de manière très importante. Contrairement à ce qu'on croit, en tout cas avec les instruments qui sont organisés pour cela, c'est relativement stable. C'est-à-dire que votre estime de vous-même, elle va bien sûr s'effondrer si vous êtes déprimé, elle peut s'améliorer franchement si vous avez très bonnes nouvelles, mais finalement, cette ligne de base, le fonctionnement global, est relativement stable. Ça, c'est très typiquement une étude américaine qui aime bien aller chercher des choses qui se vendent peut-être un peu plus dans Paris Match que dans Libération, mais qui ne sont pas inintéressantes. Mesure d'estimation sur 4000 jumeaux américains sont des études qui sont assez larges, et on commence par regarder sur le fait qu'elle est modérément plus élevée chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire que le premier résultat que donne cette étude de jumeaux, c'est un résultat social. Dans une société qui est dominée par les mâles, certes de moins en moins, hein, mais en tout cas qui reste quand même assez machiste, eh bien, un homme se sent mieux dans une société faite pour les hommes. Ce n'est pas totalement étonnant, y compris aux États-Unis. Eh bien, ce critère-là, qui est un critère social, si on ne le prend pas en considération, on passe complètement à côté de la compréhension de la génétique, de l'estime de soi en population générale. Pourquoi ? Puisque vous voyez que quand on regarde la ressemblance chez les vrais jumeaux, elle est de 50%, hein, ils ont 50% de ressemblance dans ce score d'estime de soi chez les jumeaux. Chez les faux jumeaux, elle est 35%, elle est moins importante. Comme vous savez que les vrais jumeaux sont des clones, ils ont exactement les mêmes gènes, les jumeaux hétérozygotes ou dizygotes se ressemblent comme n'importe quel frère et sœur, c'est-à-dire n'ont que 50% des gènes en commun, et bien on voit que cet écart est en faveur des facteurs génétiques. Et ce qui est intéressant, c'est que l'héritabilité, elle est à peu près pareille chez l'homme et chez la femme, alors que la fréquence initiale, la moyenne initiale, n'est pas pareille entre les deux sexes. Donc on voit bien combien la compréhension de la dimension sociale des troubles, ou ici de traits de comportement, de tempérament, a un impact très important sur la compréhension des facteurs en jeu, et notamment des facteurs génétiques. Troisième exemple, on se rapproche de plus en plus de gala après Paris Match, le souhait de maigrir, c'est la période idéale pour ça, à la moitié des couvertures de nos magazines. 4700 jumeaux, les Finlandais ont des études assez magnifiques pour des raisons techniques en épidémiologie, entre 22 et 27 ans, qui sont des âges chez la femme où en général on n'est pas très loin de 100% du souhait de maigrir en mois de juin en général. 80% chez les femmes ici, 15% chez les hommes, hein, qui préfèrent prendre quelques tours de centimètres de biceps que de perdre quelques centimètres de tour de bassin. Les monozygotes sont beaucoup plus concordants que les dizygotes, donc c'est plutôt en faveur de facteurs génétiques chez les femmes, alors que c'est quasiment identique chez les hommes. Ce qui veut dire que l'héritabilité, le poids des facteurs génétiques, dans ce qui explique le fait de vouloir maigrir au moins une fois dans la vie, est en grande partie, en majorité à 50%, expliqué par les facteurs génétiques chez les femmes, et n'a quasiment aucun rôle chez les hommes. Ça, c'est très intéressant parce que c'est assez... Bien sûr, on n'a pas exactement le même capital génétique, notamment on a un chromosome sexuel différent entre les hommes et les femmes, mais c'est difficile que quelque chose qui soit comme ça aussi inscrit dans le temps, dans le désir social, dans la représentativité du corps humain, on ait une telle différence entre les hommes et les femmes. Pas tellement sur la représentativité, mais sur le poids des facteurs génétiques. On aurait plutôt tendance à dire que les facteurs sociaux écrasent ce poids des facteurs génétiques chez l'homme. Et ça, c'est une question très importante de savoir, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les mêmes gènes, ou est-ce que tout simplement chez les hommes, le poids de ces facteurs génétiques-là est écrasé, masqué, censuré, par notamment le fait que pour un homme, dire qu'il veut maigrir pour être plus mignon sur la plage, ce n'est pas forcément terrible. Si on est là dans les pathologies psychiatriques un peu plus lourdes, on peut parler de la schizophrénie, qui sont ces pathologies psychotiques. Ce sont des sujets qui tombent malades entre 15 et 25 ans chez les hommes, un petit peu plus tard chez les femmes, qui touche quand même 1% de la population générale, donc ça fait partie des patients qu'on a beaucoup en charge en psychiatrie, et qui est une pathologie relativement sévère et qui nécessite des soins, des traitements, une prise en charge au long cours. Il y a eu des débats extraordinaires, d'ailleurs Hans Rudin a commencé par modéliser ce poids des facteurs génétiques dans cette pathologie-là, dès le début du siècle dernier. Donc, est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est pas de bol? Est-ce que c'est lié à des facteurs environnementaux qui vont rendre les sujets malades? C'est des questions qui sont très importantes et qui d'ailleurs ne sont pas totalement résolues. Donc il y a quelques études comme ça qui sont assez pertinentes et qui permettent de mieux percevoir la complexité de ce qui est en jeu. À nouveau, ce sont des études d'adoption, pour des raisons que vous avez compris. On arrive de manière artificielle à séparer ce qui est lié aux facteurs environnementaux, par l'éducation, ces parents adoptifs qui n'ont pas donné leur ADN, d'autre part, les parents biologiques qui donnent leur ADN mais qui ne donnent pas leur éducation. C'est, je le répète, c'est un modèle imparfait, mais qui donne quand même des pistes intéressantes. Et donc, ces auteurs-là ont fait des choses un peu plus futées, puisqu'ils ne sont pas contentés de dire qui là-dedans dans la famille est schizophrène. Ils ont gardé des enfants adoptés, soit de mères biologiques qui souffraient de schizophrénie, ou de mères biologiques qui n'avaient pas de schizophrénie, pour augmenter le contraste. Et au niveau des familles adoptives, ils ont pu observer quels étaient les modes de communication de ces parents adoptifs avec ces enfants, dont l'un sur deux a une vulnérabilité vraisemblable, en tout cas probable, puisqu'il a une mère qui souffre de schizophrénie. Et on a regardé des axes de modalité de consommation. Les familles dont les parents sont rigides et conflictuels, non, c'est pas comme ça, et ça ne changera pas. Et de toute façon, tu n'as pas intérêt à t'opposer. On est immédiatement dans l'aspect conflictuel et sans possibilité d'adaptation dont les enfants sont friands, ce qui ne veut pas dire qu'il faille toujours y répondre. La dimension froideur et apathique, qui est un peu désarçonnante, peu intéressée, peu impliquée, des parents qui sont froids, peu sensibles, peu prêts à communiquer. Et l'aspect chaotique, c'est-à-dire totalement imprévisible, où les parents sont des fois dans une effusion sentimentale bizarre à percevoir pour l'enfant, ou au contraire une froideur à un moment où on attend un certain engouement. Donc vous voyez trois espèces de distorsions de communication de ces parents adoptifs avec ces enfants. Et finalement, on va aller pouvoir voir ceux qui ont ce type d'anomalie de la communication, que cette particularité de la communication chez les enfants adoptifs par rapport aux parents biologiques qui ont ou non cette vulnérabilité génétique. J'aime beaucoup ce résultat puisqu'en fait, il permet de discriminer trois choses. Si vous regardez tout en bas, les 10% et 30%, vous voyez quoi? Quel que soit l'aspect chaotique de ces parents adoptifs, vous avez une fréquence bien plus élevée à gauche de ces enfants adoptés qui vont faire une schizophrénie qu'à droite. C'est 10% versus 4%, 30% versus 6%. C'est-à-dire que l'axe chaotique dans la relation de ces parents adoptifs avec leurs enfants n'a pas un impact considérable sur cette vulnérabilité génétique qui, de toute façon, va s'exprimer. Quand on regarde, par contre, le côté froideur et apathique, on remarque que 40% c'est bien supérieur à 6% et 10% c'est bien supérieur à 2%. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à dire que quand les parents, dans leur modalité relationnelle avec ces enfants adoptés, sont fortement froids et apathiques, cela augmente le risque de schizophrénie chez ces enfants adoptés, quelle que soit cette vulnérabilité génétique à la base. Et enfin, si on remonte au niveau de la ligne de la rigidité et de la conflictualité, on va se rendre compte qu'il y a un sous-groupe qui sort clairement du lot, qui sont ceux qui ont eu dans leur enfance des communications froides, rigides et conflictuelles avec leurs parents adoptifs et qui ont des antécédents familiaux. Et là, vous avez une espèce de représentation quasiment schématique du poids des facteurs environnementaux, ça a l'air d'être clairement le cas pour froideur et apathie, génétique, puisque finalement l'aspect chaotique ne change pas grand-chose sur l'expression de cette vulnérabilité, et ce qu'on appelle l'interaction gène-environnement avec la rigidité et la conflictualité, puisque ce facteur environnemental qui a un rôle essentiellement chez les sujets vulnérables, ici représentés par le fait d'avoir une mère biologique qui souffre de schizophrénie. Donc on voit combien dire c'est génétique, c'est pas génétique, c'est surtout on passe à côté de la réalité de la question, c'est comment ces facteurs peuvent s'intriquer pour essayer de mieux comprendre ce qui est en jeu. Alors, je vais vous poser maintenant quelques autres petites questions et on va essayer d'y répondre à partir d'exemples d'études qui ont été récemment publiées sur le sujet. notamment on l'a évoqué avec cet effet censure dans l'environnement par rapport au régime chez l'homme, l'effet ciblé de l'éducation, on a vu combien c'était important dans la schizophrénie, l'effet spécifique de l'enfance, qui sont des périodes où les interactions sont très structurantes, très organisatrices pour la suite de la vie, l'expression dans des situations spécifiques, puisqu'il faut tenir compte de cet environnement. Est-ce que ces facteurs génétiques, au lieu de dire c'est génétique ou c'est pas génétique, on ne peut pas aller voir directement sur certains gènes? Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir une explication dans l'organisation du trouble? Et enfin, on touchera un petit mot de l'épigénétique, qui est une nouvelle voie, enfin qui ne voit pas tout à fait nouvelle, mais qui est réutilisée en psychiatrie, et qui est très intéressant. Alors voilà un vrai exemple de l'effet censure dans l'environnement. C'est une étude qui est menée en Virginie sur une très grande série de jumeaux, c'est le travail de l'équipe de Kendler, qui a regardé la prévalence de la consommation de tabac et le poids des facteurs génétiques. Alors, si vous voulez suivre sur cette diapositive, il faut commencer par regarder la prévalence chez l'homme de la consommation de tabac. Ce sont les triangles blancs. Vous voyez qu'elle est assez élevée. Beaucoup d'hommes fument. Les femmes fumaient un petit peu moins dans les périodes récentes. Et surtout, dans les périodes plus anciennes, nos parents, nos grands-parents, fumaient peu et les femmes ne fumaient pas du tout. Pour une bonne raison, c'est que c'était socialement très mal vécu. Ensuite, on peut regarder l'héritabilité, c'est-à-dire le poids des facteurs génétiques. Chez l'homme, vous l'avez en triangle noir et vous voyez qu'il est autour de 50%, c'est-à-dire que dans tous les facteurs en jeu qui font qu'on devient ou pas dépendant au tabac, eh bien, il y a 50% qui est lié aux facteurs génétiques. Et la surprise, c'est si vous essayez d'évaluer l'héritabilité de cette même dépendance au tabac chez la femme. Ce sont cette fois les ronds noirs. Et vous voyez que l'héritabilité chez les jeunes de cette étude, elle était à peu près égale à celle de chez l'homme, c'est-à-dire entre 50 et 60%. Mais par contre, chez les sujets plus âgés et encore plus âgés, l'héritabilité diminue, voire devient nulle, dans les populations les plus âgées de cette population. Alors ça pose énormément de questions parce qu'on a un petit peu de mal à concevoir qu'on ait des gènes qui tout d'un coup se réveillent à partir des années 60 et qui ne disaient rien auparavant. Les gènes, a priori, ça ne bouge pas et c'est pas possible qu'on ait eu une modification, en tout cas de la présence de ces gènes et encore moins de ces polymorphismes. Donc il est quand même relativement compréhensible d'essayer de lier cette héritabilité avec la prévalence et de dire qu'à partir du moment où le tabac est tellement socialement négatif, tellement une pression sociale qui rend le fait pour une femme d'aller à un tabac commander un paquet de cigarettes quasiment impossible, eh bien on voit bien qu'il y aura très peu de jumelles qui soient consommatrices de tabac et que finalement ce qui est en jeu, c'est-à-dire l'interdit social, va largement plus discriminer la ressemblance entre les vrais et les faux jumeaux, c'est-à-dire laisser s'exprimer cette similarité entre les vrais jumeaux qui témoignerait d'un poids des facteurs génétiques prioritaires. Alors c'est très important parce que imaginez qu'on ait fait cette étude et qu'on l'ait publiée dans les années 40, on n'aurait eu que les résultats à gauche. Et on aurait pu dire à l'Université de tous les savoirs d'il y a quelques 20 ans, eh bien voilà, j'ai un scoop à vous donner, la dépendance au tabac chez la femme n'est pas génétique. Et qu'est-ce qu'on aurait eu comme moyen pour dire... Attendez, on n'en sait rien, c'est plus compliqué. C'est le fait d'avoir ce recul et cet historique qui nous rend possible le fait d'émettre l'hypothèse, de dire, mais c'est peut-être plus compliqué que ça. Peut-être que ces facteurs génétiques, ils existent, mais ils n'ont pas pu s'exprimer du fait de l'environnement social. Et c'est maintenant quelque chose qu'on essaie de faire beaucoup moins qu'avant, c'est-à-dire tenir compte de l'environnement, du cadre social, pour percevoir ce qui est lié aux facteurs génétiques, c'est-à-dire de ne plus faire de clivage sur la vague entre je fais la génétique et rien d'autre ne m'intéresse, et où je fais du patient, l'environnement et du social, et la génétique, c'est pour les chercheurs. Et c'est par ce type d'approche qui confronte les optiques différentes qu'on peut percevoir combien les facteurs sociaux peuvent avoir un rôle considérable dans l'expression des traits, et notamment dans le poids des facteurs génétiques. C'est d'ailleurs intéressant parce que cette étude, si on la refaisait maintenant, elle serait à nouveau totalement bouleversée. Cette fois-ci, je pense vraisemblablement à peu près autant pour les hommes et pour les femmes, puisque maintenant que les femmes ont rejoint ce doux statut des hommes dans la société, eh bien, on est à peu près équivalent dans l'exposition au tabac. Même les femmes ont tendance à consommer un peu plus tôt et un peu plus vite du tabac. Mais en tout cas, la pression sociale est négative pour tous, et donc elle discrimine des sujets qui ont plus de mal à s'arrêter, ce sont ceux qui sont en général plus dépendants, qui ont commencé plus tôt avec un niveau de cigarette plus élevé, qui sont ceux qui ont une irritabilité en général la plus élevée. Et donc on aurait probablement à nouveau une bascule, mais comme ces nouvelles lois sont relativement récentes, on n'a pas encore d'études qui le montrent. Mais ça montre bien combien ces études-là sont fragiles, dans le sens que le moindre mouvement social, une loi, peut changer le poids de ces facteurs génétiques, puisqu'il ne va pas avoir de pression similaire chez les individus plus ou moins variables. L'agressivité est une source sans fin d'études génétiques pour une bonne raison, c'est qu'on part sur un concept épidémiologique qui est triste, qui est le fait que ces enfants qui vivent dans des milieux difficiles, qui ont subi des agressions, sont souvent, plus fréquemment en tout cas, des enfants qui par la suite vont avoir des comportements agressifs. Ce constat-là, on peut le faire et dire qu'il ne faut surtout pas les toucher, c'est comme ça, il faut rien faire. Puis en même temps, on dit, si on veut que ça change, si on veut aider ces sujets, si on peut aider à les repérer pour pouvoir mieux les soigner, peut-être qu'il faut chercher encore plus à comprendre ce qui se passe. Et ça n'a pas donné de résultats très intéressants. Avant cette cohorte de Caspi, qui est une cohorte extraordinaire, qui n'aurait pas plu à nos camarades de tout à l'heure, mais qui a quand même des intérêts scientifiques non négligeables, c'est une étude qui est faite en Nouvelle-Zélande, sur une île, donc un peu captif, tout le monde est là, pas beaucoup de gens ne déménagent, puisque c'est 300 km l'île en face. Ce sont 1000 sujets qu'on a pris à la naissance et qu'on a suivis pendant 25 ans. Vous imaginez un peu le matériel qui est disponible dans ce type d'étude. Non seulement, donc, on va tous les 6 mois voir comment se passe leur vie, notamment demander aux parents, voir les juges, voir les profs, mais en plus, on va prélever de l'ADN de cette population, essayer de comprendre qui va devenir malade, qui va avoir des traits, qui va avoir des problèmes, et de voir ben, quels sont les facteurs qu'on pourrait essayer de reprendre. Et comme ce sont des gens qui sont évalués très régulièrement, on va faire du travail prospectif, c'est-à-dire mesurer en amont les facteurs de risque qui permettent de comprendre en aval les maladies, ce qui au niveau épidémiologique est beaucoup plus fort qu'une simple étude transversale où on fait des analyses rétrospectives. Cette fois-ci donc, l'idée, c'est de travailler sur une enzyme qui dégrade les monoamines, qu'on appelle la monoamine oxydase, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais cette enzyme-là, elle est importante puisque une de ces anomalies majeures, une mutation, a un effet où elle est moins capable de dégrader les neuromédiateurs et donc où on pense que la régulation, pour dire les choses de manière simple, est de moins bonne qualité. Les auteurs donc, ont regardé les sujets avec ou sans cet allèle de vulnérabilité, puisqu'il est moins ou plus capable de réguler, on va dire, la libération de ces neurotransmetteurs. Et on va opposer à cette approche génétique des vrais facteurs environnementaux, c'est-à-dire la violence qu'ont subi ces enfants à 0, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans et demi, sur les 10 premières années de leur vie. Alors, ce ne sont pas que des études comme ça sur il paraît que, avec, à l'échelle, ils ont coté 3 en disant qu'ils ont été maltraités, puisque ces informations-là sont sur les plaintes au tribunal, les parents qui ont été évalués, donc des informations qui sont exceptionnelles de qualité. Et ce qu'on peut repérer dans ce schéma, c'est qu'il y a 2 courbes. Plus les enfants ont été exposés à une maltraitance infantile, plus on est sur la droite du schéma autour des malformations, des maltraitances sévères, plus vous avez effectivement de comportements agressifs chez ces enfants. Mais cela, finalement, est essentiellement vrai chez les sujets qui sont porteurs de ce polymorphisme de la monoamine oxydase, de cette forme du gène qui code pour cette enzyme, alors que les autres ont une courbe qui est quasiment aplatie, en tout cas qui n'est pas significativement augmentée par la maltraitance infantile. C'est-à-dire qu'on n'est pas égaux. Cette gravité du stress de la maltraitance infantile est très délétère dans les comportements agressifs à venir chez ces enfants qui sont porteurs de l'allèle de vulnérabilité et n'a quasiment pas d'impact chez les autres pour des raisons qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas, mais en tout cas on pointe là du doigt une vraie interaction gène-environnement. Alors, on ne fait pas que regarder certains polymorphismes, on regarde aussi des gènes spécifiques qui nous semblent être intéressants. Je ne vais pas vous montrer beaucoup de gènes, mais celui-là, je l'aime bien. C'est le gène qui code pour le transporteur de la sérotonine. Vous savez, c'est celui sur lequel agissent tous les antidépresseurs, Prozac, Deroxate et autres. Et donc, ils sont des antidépresseurs qui sont très prescrits en France et ailleurs. L'intérêt, ce n'est pas de faire de la pub pour l'industrie, c'est juste pour dire que, comme ce sont des médicaments qui agissent sur la sérotonine et qui bloquent le transporteur, eh bien, en fait, si on bloque le transporteur, on va empêcher que la sérotonine revienne de la fente synaptique dans le bouton synaptique, et donc on va rendre la sérotonine plus disponible pour pouvoir stimuler la membrane postsynaptique. Et donc, quand on sait que ce gène a un polymorphisme, que vous voyez en rouge dans le promoteur, la région initiale du gène où vient s'accrocher les enzymes pour faire la transcription en ARN, qui va changer le taux de transcription de cet ADN en ARN messager, eh bien, vous avez un intérêt important. En termes simples, c'est comment une forme du gène qui code pour le transporteur de la sérotonine, sachant qu'elle a un rôle sur le taux de transcription de ce transporteur, c'est-à-dire moins important, comment le fait d'avoir moins de transporteurs de la sérotonine peut expliquer des particularités X ou Y. Alors, les antidépresseurs, notamment sérotoninergiques, ils agissent sur l'anxiété, ils agissent sur la dépression. L'anxiété et la dépression, c'est autour du stress. Donc, allons voir comment la forme de ce gène, ce polymorphisme, pourrait avoir un rôle dans le stress, l'anxiété et la dépression. Voilà d'abord une étude sur la vulnérabilité. Il y a plein de manières différentes d'essayer de comprendre la vulnérabilité pour la dépression. Il y en a une qui est de prendre l'acide aminé qui est le précurseur de la sérotonine, qui est le tryptophane, et de l'enlever de toute l'alimentation. Or, on a besoin de tryptophane pour faire de la sérotonine et la transmission sérotoninergique. Et on va regarder, est-ce que ça donne un coup de blues ? Alors, c'est des études qui ont déjà été faites chez les sujets déprimés ou après dépression, ou qui ont des antécédents de dépression. On s'est rendu compte que ce régime déplété en tryptophane, c'est-à-dire dans lequel manque cet acide essentiel précurseur de la sérotonine, n'avait pas le même effet chez les individus différents en fonction de la maladie pour la dépression. Et vous voyez dans ces études que le score de dépression qui sont sur les courbes, en haut en rouge, ce sont les sujets qui sont porteurs de cette allergie, qui sont moins capables de transcrire le transporteur de la sérotonine, vont avoir un petit coup de cafard pendant 5, 6, 7 heures après ce régime qui vient les carencer en sérotonine. Alors que quand vous avez l'ALL, eh bien vous n'avez pas d'augmentation de cette vulnérabilité puisque vous n'avez pas de coup de cafard. Alors, comme je suis en laboratoire, c'est la moindre des choses dont on se prend systématiquement un peu notre ADN. Donc moi j'ai l'ALS, donc je fais un petit coup de cafard quand on m'enlève le tryptophane, donc je fais très attention à ma tryptophane quand je déjeune. Dans le transporteur de la sérotonine, et quand on est dans l'intérêt de comprendre ce qui est le stress, la dépression, l'anxiété, on sait combien ça peut avoir des rôles très importants sur notamment l'alcoolodépendance. Alors, c'est bien sûr un peu compliqué à faire chez l'homme dans la vulnérabilité, parce qu'on pas exposer nos sujets à l'alcool, si c'est pour favoriser des rechutes, c'est pas le but. Et donc il y a des modèles animaux intéressants, et notamment chez les primates, et ces études qui ne se font pas en France, et à mon avis, elles ne pourraient pas être réalisables, études américaines, où on a pris des grands primates, ici c'est le singe rhésus, vivant en quasi-liberté, une liberté quand même relativement paradoxale, et qu'on initie assez rapidement à la consommation d'alcool. La première chose qu'on va faire, c'est regarder la forme du gène qui code pour transporter la sérotonine que vous connaissez bien maintenant. Ils ont le même. Hein, vous savez qu'on a 95% du génome identique avec les primates. Et donc, ils ont non seulement le même gène de transporteur, bien sûr, de la sérotonine, mais le même polymorphisme dans le promoteur qui fait qu'on en a plus ou moins dans la vie. Et on va regarder avec ou sans l'allèle de vulnérabilité. Et puis après, on va prendre un de ces bébés rhésus sur deux, l'extraire des bras maternants de sa mère pour l'enfermer dans une cage avec d'autres bébés singes du même âge, qui est absolument insupportable pour ces enfants qui sont en général protégés par leurs parents de la rivalité entre pères. Et on va les laisser pendant 3 mois enfermés dans cette cage avec une privation des soins maternels essentiels. Donc vous voyez où on va en venir. On a d'une part les facteurs génétiques, avec ou sans la vulnérabilité, et les facteurs environnementaux. Stress grave, précoce, majeur, versus éducation normale avec ses parents. Et on va, au bout du même âge, c'est résus à peu près vers l'âge de 1 an, gentiment les initier au biberon avec de la banane, un peu de sucre et un bon petit quart de rhum dans chacun des biberons. Ce que, bien entendu, le résus déteste. On est à peu près le seul animal sur la planète à boire de l'alcool de manière volontaire. Mais à force de banane, et bien en fait, ils y arrivent. Puis, de toute façon, ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a rien d'autre s'ils veulent boire que de prendre ces boissons alcoolisées. Et puis, une fois qu'ils sont bien habitués à cette consommation d'alcool, on leur laisse le libre choix de retourner à des biberons avec balle de sucre et sans alcool par rapport à rester avec le même petit penche coco là, pas désagréable pour nous. Bien entendu, hein, les singes très rapidement vont retourner vers les boissons sans aucune consommation d'alcool, mais quelques-uns vont commencer à y prendre goût. Et ces quelques-uns, c'est là où la question va se poser. Est-ce que vous pensez que c'est la laisse qui va finalement être, c'est génétique, et si c'est dans les gènes, ça ne peut pas être autrement? Est-ce que vous pensez que c'est la maman, les méchantes mamans qui ne sont pas présentes et qui ne s'occupent pas de leurs enfants, font que ces enfants sont stressés et qui vont avoir besoin d'alcool pour s'arrêter? Ou est-ce que c'est un peu des deux, et j'espère que vous avez perçu avec mon discours un peu monolithique, que c'est un peu les deux qui vont agir, et je vais vous le montrer, puisque cette étude montre, de manière pour le moins explicite, qu'on pourrait considérer que tout le monde a raison. Les Manhattan de Bourg, gris clair, ce sont les sujets qui ont l'allèle de vulnérabilité. En moyenne, ils sont plus élevés que les deux Manhattan de Bourg, gris foncé. Donc oui, il y a bien un rôle des facteurs génétiques. En même temps, à droite, c'est plus élevé en moyenne qu'à gauche. Donc oui, il y a bien un rôle des facteurs environnementaux. Et le seul groupe qui a une vraie augmentation du risque, ce sont ces sujets qui sont génétiquement vulnérables et qui rencontrent ce facteur environnemental favorisant. C'est important parce que ça veut bien dire que finalement, avant, le fait de regarder ça de manière unifocale, eh bien on était dans l'erreur, alors que pourtant les résultats sont significativement positifs. Si on veut regarder chez l'homme, donc on ne va peut-être pas lui prendre des petits rhums, ni l'enfermer dans une cage, c'est un peu compliqué bon, pour le moment. Donc, ce qui est important peut-être, c'est de regarder cette interaction de gènes environnement avec la LAL du 5-HTT dans la manière dont on gère le stress chez l'homme. Alors pour ça, on a des facilités, c'est qu'il suffit de donner la représentation, une photo, une image d'un sujet qui a une crise d'angoisse, qui a des traits qui expriment l'angoisse, on va immédiatement activer les réseaux neuronaux de l'angoisse sans pour autant avoir un sentiment d'anxiété. Hein, mais par effet miroir, on a cette activation des réseaux de l'anxiété. Eh bien, les sujets qui sont porteurs de l'LLL vont avoir une activation relativement banale du traitement de l'information. C'est le fil de Menck. D'ailleurs, quand j'ai été prendre cette image sur Internet, 2 jours après, il était cambriolé dans le musée. J'étais un petit peu inquiet, mais je ne pense pas qu'il y ait de lien de causalité. Et puis finalement, pour les sujets qui sont porteurs de l'LLS, le même portrait va être associé avec une activation amygdalienne qui sont en général ces régions sous-corticales, très communes avec l'ensemble des espèces. Hein, notre cerveau a énormément bougé, beaucoup dans le préfrontal et la région corticale. Alors finalement, la région sous-corticale est très proche entre les différentes espèces. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est traitement automatique, rapide et important. Hein, si vous avez une forme qui serpente au milieu de la forêt, vous avez intérêt à réagir dans les 10 millisecondes pour pouvoir faire un bond et éviter de vous faire mordre par un serpent. Et vous n'avez pas à vous dire, oui, dans le contexte, je pense que ça pourrait représenter quelque chose, sinon vous êtes déjà mort. Et donc cette activation ultra rapide et précoce, elle est bien sûr indispensable pour notre survie, mais en même temps, elle est dans une traitement d'information très automatique qui, quand elle n'est pas maîtrisée, peut amener avec un sentiment de risque, de danger, et donc le sentiment d'inquiétude, voire pour certains, d'angoisse. Or, vous voyez que là, la représentation d'une image qui formule, qui représente l'anxiété, a déjà une activation corticale et sous-corticale, c'est-à-dire un traitement d'information qui n'est pas identique. Les sujets qui sont porteurs de l'LLS vont avoir plus de capacité à activer des réseaux proches de ceux dont on a besoin pour l'anxiété et donc, on l'imagine, seront plus à risque de développer ça comme modalité de fonctionnement, c'est-à-dire de faire un trouble anxieux. Comme j'ai dévoilé que j'avais l'LLS, je vais quand même me défendre en disant que ce n'est pas que un défaut, dans le sens que très très vite, les informations périphériques essentielles, c'est la survie. Et peut-être qu'à ce moment, on en a un peu moins besoin, mais l'univers change dans ses dangers, et peut-être que cette structure-là, elle est très importante à des moments, dans des situations qui font que, eh bien, ce type d'information, on en a besoin pour que la population puisse survivre. C'est une réalité dans l'hétérozygosie, c'est une réalité aussi au niveau génétique des comportements. Il nous faut une hétérozygosité, il nous faut une distribution gaussienne des comportements pour avoir quelques aventuriers sauvages qui vont découvrir des nouveaux continents et quelques comptables bien maîtrisés qui permettent de faire que tout le monde puisse manger. Et donc cette grande diversité des comportements, comme la diversité du traitement de l'information, elle est la garante de la survie de l'espèce, et donc elle est nécessaire. On a repris la courbe de Caspi, qui est tellement extraordinaire, et cette fois-ci, on les a laissés grandir après les 5 à 10 ans, on a regardé s'ils avaient été maltraités, et on les a évalués plutôt entre l'âge de 15 et 25 ans, pour voir qui rencontrait des événements de vie stressants. Un licenciement, un décès, un déménagement, des choses douloureuses de la vie, qui font, vous vous en rendez compte tous les jours autour de vous, que des sujets restent sur le carreau, complètement déprimés, qui n'arrivent pas à s'en remettre, et d'autres, au bout de 3-4 jours, savent passer, tourner la page, ce qui est vraiment très différent. Et donc, vous imaginez bien que le gène qu'on va regarder, c'est le 5-HTP, puisque c'est vu impliqué dans le stress, l'anxiété, et qu'en plus, ce transporteur-là est la cible des antidépresseurs, qui sont les traitements qu'on donne chez les patients déprimés. Et ce qui est intéressant, c'est de repérer que l'allèle L donne une petite augmentation des dépressions après la rencontre d'un événement stressant, mais par contre, chez les sujets qui ont cette LLS, eh bien, il va y avoir une association très forte en prospectif où l'événement de vie stressant, une fois apparu, est associé avec une augmentation franche du risque de dépression au décours. Si on est dans les facteurs génétiques, on n'est plus trop limité par l'âge. Les gènes ont à peu près la même chose du départ à la fin. Il y a quelques études qui ont été faites, notamment ici en Israël, qui ont été très intéressantes, faites chez des nouveau-nés, quelques heures de vie, en couveuse, uniquement observation, et on va regarder comment ils vivent l'entrée d'un inconnu dans une pièce, sachant que la mère sort de cette pièce, qui est forcément un sentiment d'inquiétude, et le fait que cette deuxième personne qui rentre dans la salle n'est pas sa mère, va amener à un sentiment qui va être relativement désagréable chez ce tout nouveau-né. Eh bien, en fait, on a remarqué que le comportement peut être très focalisé sur cette nouvelle personne ou désorganisé, chaotique et un peu surangoissé en fonction d'un des formes des gènes, un polymorphisme génétique, ici pour un récepteur plutôt à la dopamine. Donc, sans rentrer dans les détails de ce facteur génétique, ce genre d'études montrent que finalement, des comportements aussi précoces à quelques heures de vie sont aussi en partie expliqués par les facteurs génétiques. Non pas dans la réponse comportementale, mais dans la manière de l'exprimer, ici le niveau des organisations. Alors, nous l'avons fait au laboratoire, c'est un travail qu'on a fait en commun avec Diane de Perwaki de l'unité 675, où nous avons demandé à l'association Jumeaux et Plus, qui est une association française qui cherche à aider les parents qui ont des jumeaux, notamment pour quelques réductions sur le prix des couches et des choses relativement pragmatiques et bien utiles, qui a accepté qu'on envoie un questionnaire à l'ensemble de la population des parents de jumeaux, dont une très grande partie a gentiment bien voulu répondre et nous l'a renvoyé pour un traitement informatique de ces questionnaires. Sur le questionnaire, on avait une évaluation sur une échelle déjà très organisée et structurée du comportement de ces enfants entre l'âge de 1 et 3 ans, des enfants donc très jeunes. Et donc on a regardé toutes les modalités comportementales et regardé est-ce que les vrais et les faux avaient des concordances différentes pour avoir une estimation du poids des facteurs génétiques additifs. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que un des comportements qui était le plus génétique, c'est-à-dire pour lequel le poids des facteurs génétiques était plus élevé, c'est l'activité-impulsivité, c'est-à-dire ce qui est très proche de l'hyperactivité de l'enfant qui, normalement, on ne peut être diagnostiqué qu'à l'âge de 6 ans. Et donc, on voit que finalement, autant c'est compréhensible, puisqu'il ne faut pas faire de diagnostic abusif et intrusif, mais quand les enfants rentrent au maternel ou à l'école, c'est plus facile de repérer effectivement l'hyperactivité désordonnée qui va interférer sur leur rendement scolaire. Mais finalement, en prenant des instruments appropriés, on arrive assez tôt à avoir une notion du poids des facteurs génétiques dès l'âge de 1 ou 2 ans, sans pouvoir dire bien sûr si par la suite ce seront des enfants qui seront hyperactifs, mais en tout cas de quelque chose qui reflète de manière indirecte vraiment ce qui est lié à l'hyperactivité de l'enfant. Dans les facteurs de complexité qui doivent être pris en considération, il y a la notion d'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est épi au-dessus, et les facteurs génétiques, c'est donc plutôt l'accès au matériel génétique. Le gène ne bouge pas, je vous l'ai dit, depuis la naissance jusqu'à la mort, en dehors de quelques accidents qui sont en général extrêmement rapidement réparés. On a un matériel de réparation assez fabuleux. Donc ça, c'est une étude qui a repris la modélisation de ce que peut faire les loupes de facteurs génétiques. On prend des rats et on regarde l'interaction qu'ils ont avec leur petit raton. Une bonne mère rat doit lécher son petit, le grooming, hein, le fait d'être dans une éducation enveloppante, câline, est très important dans l'évolution harmonieuse du petit raton. Ce qu'on a remarqué dans cette étude, c'est que plus cette mère était bonne mère, plus le tonus sérotoninergique était élevé chez ce petit raton. Et finalement, cette augmentation du tonus sérotoninergique, passant essentiellement par les 5-HT7, va augmenter certains facteurs, et notamment des facteurs dits neurotrophiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour dire que ça vient modifier la manière dont on va exprimer un récepteur, qui est le récepteur au cortisol. Vous savez que le cortisol, on l'appelle beaucoup l'hormone du stress. Et donc finalement, c'est